Le premier texte que nous lirons ce matin dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, les versets 12 à 15. Chapitre 5 du livre du Deutéronome, c'est celui dans lequel Moïse donne au peuple les 10 paroles de vie, le décalogue que lui a prescrit le Seigneur. Voici donc. Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Et puis nous lirons ensuite dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Et puis, dans l'évangile de Marc, nous lirons du verset 23, chapitre 2, au verset 6 du chapitre 3. Comme Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiathar, mangea les pains offerts alors qu'il n'est permis qu'au prêtre d'en manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître du sabbat. Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer ?» Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit, et sa main fut rétablie. À peine sorti, les pharisiens tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Ce passage, ces deux petits épisodes, semblent très clairs. Hein ? On est un jour de sabbat, il est question du sabbat et de deux attitudes différentes devant ce commandement, mais au-delà de ce commandement particulier du sabbat, deux attitudes différentes devant la loi. On a d'un côté les pharisiens qui grondent et qui condamnent. Il n'est pas permis de faire ce que les disciples font le jour du sabbat. Il n'est pas permis de guérir cet homme le jour du sabbat, parce que sa vie n'est pas en danger immédiatement. Et pour eux, faire cela, bien, ça mérite la mort. La mort de Jésus, qui montre à tous un si mauvais exemple, en ne respectant pas le commandement, en s'affranchissant de l'obligation d'obéissance. Que devient un commandement si on n'y obéit pas? De l'autre côté, Jésus questionne. N'avez-vous pas lu les Écritures ? Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat ? Et la différence est grande entre ces deux attitudes, d'un côté une condamnation, de l'autre un questionnement. D'un côté la fermeture et de l'autre une ouverture. Une question, c'est une ouverture. Mais quand même, qu'est-ce que c'est qu'un commandement si on n'est pas obligé de le suivre en obéissant à celui qui l'a édicté, en mettant en œuvre ce qui est prescrit? Et on se demande bien à quoi pensent les disciples ce jour-là en arrachant des épis de blé dans un champ pour les manger. Ils savent bien que c'est le jour du sabbat, hein, ils ne se trompent pas dans leur calendrier. Faut pas croire non plus qu'ils ont envie de provoquer gratuitement les pharisiens. Et il ne faut pas penser non plus que le sabbat n'a aucun sens pour eux et que le respecter ou pas, ça leur est indifférent. Et c'est la même chose pour Jésus dans la synagogue avec l'homme à la main sèche, à la main paralysée. Le texte du Deutéronome nous aide à avancer. Le sabbat est ordonné à la libération de l'esclavage. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte d'une main forte. Et le sabbat est donné pour se souvenir. Un arrêt du travail et des activités pour se souvenir que Dieu n'a pas laissé son peuple être écrasé par l'esclavage. Le sabbat célèbre la libération. Alors, c'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas la seule explication du sabbat. Il y a un autre texte dans le livre de l'Exode où le sabbat est référé à la création, vous savez, le septième jour où Dieu s'est reposé. Et là, dans ce cas, le sabbat célèbre l'œuvre de Dieu confiée aux humains. Mais avec le texte du Deutéronome, le sabbat est célébration de la libération. Et il est prescrit, vous l'avez entendu, le plus largement possible. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de groupe privilégié ou privé. Il y a les hommes et les femmes, les parents, les enfants, les riches et les pauvres, les maîtres et les serviteurs. Il y a les Israélites et les étrangers. Il y a les humains et les animaux. Un jour est consacré, un jour est mis à part pour cesser les activités ordinaires et pour se souvenir de la libération, c'est-à-dire du passage de la servitude, de l'esclavage au service de Dieu, un passage qui se dit aussi comme un passage de la mort à la vie. C'est un jour différent pour émerger du flot quotidien, pour se souvenir, mais ce souvenir, ce n'est pas seulement penser au passé, c'est aussi se dire, en méditant intérieurement, personnellement ou avec d'autres, aujourd'hui, qu'est-ce qui me rendrait esclave? De quoi serais-je l'esclave? Et l'on peut rendre grâce, toujours, à celui qui libère. Et c'est ainsi, parce que ce souvenir est maintenu vif et vivant, régulièrement actualisé, c'est parce que ce commandement n'est pas seulement donné une fois dans le passé, mais qu'il est placé devant soi à nouveau, à chaque fois, à chaque circonstance où l'on peut se poser cette question particulière du sabbat, de l'activité, de la libération, et puis c'est la même chose pour les autres commandements. Le commandement est toujours là, présent. Eh bien, et en le rendant présent, on se place aussi devant Dieu. Eh bien, c'est parce qu'il est rendu ainsi présent, ce commandement, qu'il peut y avoir une histoire. Que ce n'est pas seulement quelque chose du passé qui serait dépassé, mais quelque chose qui tisse profondément la trame du présent. Et cela s'appelle l'histoire. Que ce soit l'histoire d'un peuple, comme le peuple d'Israël, mais que ce soit aussi une histoire personnelle, comme celle de chacun d'entre nous. Dans l'Ancien Testament, cette histoire, c'est effectivement l'histoire d'un peuple libéré, avec qui Dieu va passer une alliance pour la vie et le bonheur. L'origine de ce peuple, c'est une libération, et son histoire se tisse sur le souvenir rendu présent de cette libération. C'est ce que nous faisons nous aussi, particulièrement les dimanches où il y a la scène. Le commandement donné par Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi », c'était il y a 2000 ans. Mais en le rendant présent, aujourd'hui, entre nous, pour chacun, eh bien, nous le rendons vivant. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le don de la vie du Christ, eh bien, transforme toujours les existences des personnes, en les faisant passer d'un destin à une destinée, en les faisant passer, symboliquement, mais véritablement, de la mort à la vie. Et c'est une manière très concrète que nous rendons ce don de vie du Christ présent dans nos vies, quand nous nous trouvons dans des circonstances particulières où la possibilité de partager la vie est présente. Ainsi, le sens de la vie d'un disciple du Christ, d'un chrétien, s'origine dans ce don, passé mais non dépassé, ce don toujours présent, bien plus que dans une généalogie familiale, géographique ou même spirituelle. L'origine du croyant, c'est une œuvre de libération. Et à travers le commandement du sabbat, cette œuvre de libération, cette libération, ne cesse de donner une tonalité particulière à l'existence du croyant. Le don que Jésus nous a fait de sa vie donne une tonalité, une couleur particulière à nos vies aujourd'hui. En nous libérant, par exemple, de l'emprise de la mort, comme de la peur de mourir ou de vivre, et en nous engageant en faveur de la vie d'autrui. Le philosophe Giorgio Agamben, qui a écrit un petit ouvrage très intéressant sur le commandement, écrit « L'origine ne cesse jamais de commencer, c'est-à-dire de commander et de gouverner ce qu'elle a fait venir à l'être. » Alors comment la célébration de la libération peut-elle se commuer en imprécation ? « Il n'est pas permis, tu n'as pas le droit, c'est interdit !» jusqu'à envisager de faire périr quelqu'un. Comment la contrainte a-t-elle pu prendre le pas sur le souvenir, l'action de grâce et la méditation ? Les textes de ce jour nous font réfléchir parce qu'ils interrogent profondément le rapport de la loi à la libération. Elle nous fait voir la loi au miroitement de la libération. Et à la sortie d'Égypte, le service de Dieu s'éprouve autant, si ce n'est plus, par le respect et l'attention portée à autrui que par la pratique de la piété. Il y a dans les décalogues, dans les 10 paroles, 5 qui concernent la relation à Dieu et 5 qui concernent la relation au prochain. Et ces paroles nous aident toutes à reconnaître en nous et à discerner ce qui peut nous envahir et nous réduire en esclavage, que ce soit l'idolâtrie, la convoitise, la duplicité et l'oubli même du commencement, l'oubli de l'origine, c'est-à-dire l'oubli aussi du commandement. Et oublier un commandement, ce n'est pas seulement s'en détourner ou le rejeter, c'est aussi le dévitaliser en le coupant de l'origine, de son origine. Le dévitaliser en transformant le don bénéfique pour l'humain, la puissance de vie qui est la loi de Dieu, qui est passée par la libération pour une vie libre, le faire passer de cette libération à des lettres contraignantes qui ne peuvent ni relever ni engager un élan de vie, ni réjouir ceux qui y sont soumis. Mais c'est là le danger de tout système, de toute organisation religieuse, qui est toujours tentée de s'attacher à une conformité qui peut être vérifiée à coup de « il n'est pas permis de, il faut faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Le religieux, l'humain religieux a tellement peur que les dons de Dieu soient perdus ou gaspillés. Mais Il pouvait l'être. Il a tellement peur que les dons de Dieu soient perdus ou gaspillés qu'il les enferme dans un cadre bien défini. Mais c'est une logique qui prive des bienfaits du don ceux qui pourraient en bénéficier. Le religieux distingue soigneusement le sacré et le profane, en choisissant toujours systématiquement le sacré, par peur d'en être privé lui-même. Mais cela, c'est justement rompre l'alliance, parce que l'alliance, c'est la rencontre entre le sacré et le profane, entre Dieu et l'humain. Alors le religieux ne supporte pas le large, ce que nous appelons aujourd'hui la liberté de conscience. Les Écritures, la loi, l'Évangile même peuvent devenir pour le religieux un code de bonne conduite, un manuel de comportement conforme où la lettre de la loi devient le repère exclusif, quel que soit le commandement qu'on choisirait dans l'ensemble des Écritures. Mais cela, c'est toujours la porte ouverte à la violence, comme celle des pharisiens qui veulent faire périr Jésus. Jésus, lui, interroge. Est-il permis ? L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens : tout est permis. Et ça, c'est effrayant. Mais Paul poursuit : mais tout n'est pas utile. Alors, pour réfléchir à la question de Jésus, pour discerner ce qui est permis, et puis ce qui est utile, et puis ce qui est nécessaire, et puis ce qui nous arrange, parce qu'il y a de tout cela en nous, hein, eh bien, il faut un esprit large. Il faut une liberté de pensée et une conscience éclairée. Jésus rappelle de manière très libre aux pharisiens la transgression de David qui mangea des pains réservés aux prêtres parce que c'était un temps de famine et qui en donna à ses compagnons. Ainsi, Jésus se saisit de la notion de permission qui a été introduite par les pharisiens qui disent « il n'est pas permis » pour en faire une question. Et une question, c'est une autorisation à penser. Ce n'est pas une condamnation. Et il s'agit bien profondément, fondamentalement, d'une question de vie ou de mort, de salut ou de perdition, de bonheur ou de malédiction. Est-il permis ? Pour le dire autrement, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire dans cette circonstance-là dans laquelle je suis, dans laquelle je me trouve, qui s'impose à moi, que je n'ai même pas forcément choisi ? Au nom de quoi est-ce que je vais faire ce que je vais faire ? Au nom de quoi je fais ce que je fais ? Sur quelle conviction, sur quelle foi repose ce que je fais ? Ces questions, ce sont celles de la liberté de conscience, c'est-à-dire celles d'une personne capable et autorisée à prendre une mesure large de ce qu'elle voit, de ce qu'elle fait, de son comportement, une mesure si large qu'elle commence au commencement, c'est-à-dire au commandement lui-même, et donc à son interprétation. La loi nous aide à penser et à comprendre, et les commandements ne nous sont pas donnés pour nous plier dans leur formulation. Ce dont Jésus témoigne, c'est que le respect de la loi ne tient pas au respect de la lettre de la loi, mais dans la compréhension profonde et concrète de ce qu'est la loi, une compréhension personnelle que chacun ne peut faire que pour soi, qu'il peut inviter d'autres à partager, mais la conscience est personnelle à chacun. Et cette compréhension, elle engage. Et elle engage toujours en faveur de la vie des vivants. Car c'est le sens de la loi, c'est l'origine de l'origine. Chacun des vivants a place dans la création de Dieu, qui les regarde tous avec bonté. L'œuvre de Dieu, dont Jésus témoigne ce jour-là, jour de sabbat, dans la synagogue, c'est que Dieu libère même de la lettre de la loi et de tout ce que la religion peut mettre en place pour encadrer la pensée et le comportement des croyants. Jésus fait ce jour-là dans la synagogue œuvre de libération en faveur de ses disciples, en faveur de l'homme, et ça pourrait même être en faveur des pharisiens si ceux-ci acceptaient de se laisser interroger, déplacer, si ceux-ci acceptaient de cheminer un peu, mais ils ne le feront pas. Jésus fait œuvre de libération de la pensée et de la conscience, pas pour une pensée erratique, mais pour une pensée ordonnée à la volonté de Dieu, qui est à discerner dans chaque situation concrète. Et ça, c'est un véritable effort. C'est un véritable travail. C'est une quête spirituelle. Et c'est pourquoi il est aussi si tentant, si facile, moins fatigant, de s'en remettre à ce que le religieux peut offrir de dogmes, de préjugés, de codes, de déterminismes, de fatalité, de conformisme, de lettre de la loi. Mais c'est beaucoup moins subversif aussi. Un commandement demeure un commandement, non pas par la soumission des croyants, mais par l'esprit qui en ranime toujours le sens aux esprits humains en vue de l'élargissement, de l'approfondissement et de l'intensification de la vie des croyants, de nos vies. Amen.